Est-ce que vous diriez que Dieu est comparable à cet homme riche de la parabole? Est-ce que vous pensez que dans cette parabole, l'homme riche représente Dieu? Non, sûrement pas. Il suffit déjà de regarder les autres paraboles d'un homme riche dans l'Évangile. Dimanche prochain, on aura celle d'un homme riche avec le pauvre Lazare, on l'appelle le mauvais riche. Il suffit de se souvenir de celle qu'on a entendue au premier dimanche d'août, d'un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté, qui se demandait ce qu'il allait en faire. Insensé, tu es fou, lui dit Dieu. Non, définitivement non, cet homme riche n'est pas Dieu. Et Dieu ne fera jamais l'éloge de la malhonnêteté, même pour donner aux pauvres. Il n'est jamais permis de faire le mal pour obtenir un bien. Jamais. Ces deux hommes, le riche, le gérant, sont à peu près aussi brillants que dimanche dernier, les deux frères de la parabole du fils prodigue. Et il faut avoir ça en tête pour entrer dans l'enseignement de Jésus. En prêtant d'abord attention à cette accusation qui est portée contre le gérant. Et à la façon dont l'homme riche, le maître, se comporte, où il décide de l'écarter de sa gestion, sans l'entendre, sans avoir vérifié que cette accusation est fondée, que cette dénonciation n'est pas calomnieuse. Où est la présomption d'innocence? Si cet homme riche avait été juste, je ne dis même pas s'il avait été Dieu, si simplement il avait été juste, il aurait dit, rends-moi les comptes de ta gestion, car s'il est vrai que tu dilapides mes biens, tu ne peux plus être mon gérant. Si c'est vrai, même un pharisien comme Nicodème connaît ce qui est le béaba, le minima de la justice. Est-ce que notre loi permet de juger un homme sans l'entendre d'abord, pour savoir ce qu'il a fait? Nous pouvons tous être accusés injustement. Tous. Et nous, chrétiens, devons y être particulièrement sensibles et vigilants, parce que c'est ce qui s'est passé pour Jésus. Il a été condamné sur de fausses accusations. Nous l'avons entendu cette année lors du dimanche des rameaux, avec ces personnes qui disaient « On a trouvé cet homme qui mettait le trouble dans notre nation, qui empêchait de payer les impôts à César et qui disait le Christ roi. » Pilate l'interroge « Est-ce que tu es le roi? Est-ce que tu es le roi des Juifs ?» Jésus répond « C'est toi qui le dis. » Et sur l'impôt à César, chacun sait que Jésus n'a jamais dit de ne pas le payer. Il a dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Nous pouvons tous être accusés injustement. Et la règle d'or, qui veut que nous ne fassions pas aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'ils nous fassent, et mieux encore de façon positive, que nous fassions ce que nous voudrions qu'ils fassent pour nous, nous intime, nous commande de ne pas crier avec les loups, et commencer toujours par écouter la défense des accusés. Or, il y a ceci d'étonnant dans cette parabole, que l'homme ne cherche pas à se défendre. On l'interprète comme le signe de sa culpabilité, alors que ni le silence, ni la dénégation ne sont des indicateurs suffisants. On peut être totalement innocent, et ne rien dire comme Jésus au moment de sa passion. On peut être totalement coupable et faire preuve d'une mauvaise foi sans limite. C'est la spécialité de notre époque. On voit toutes sortes de personnes prises la main dans le sac, protester avec un aplomb stupéfiant. Dire non, 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 ou alors, ou non, c'est pas illégal. Peut-être que ce n'est pas moral, mais ce n'est pas illégal. C'est tuer la loi que de la déconnecter de la morale. Revenons à cet intendant et au terme précis qui est employé, il a été dénoncé. Il a été dénoncé, ça veut dire qu'a été rendu public, c'est-à-dire ici en l'occurrence, a été révélé à son maître une information cachée ou tenue secrète. C'est ça la définition de la dénonciation. Rappelez-vous la réponse de Jésus au moment de sa passion quand le prêtre l'interroge, le grand prêtre l'interroge. C'est au grand jour que j'ai parlé, à la synagogue, devant l'assemblée des Juifs. Tout ce que j'ai dit a été public. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi est-ce que tu m'interroges ? Demande à ceux qui ont entendu. Demande à ceux qui sont là. C'est une première question que, à laquelle je reviendrai, qu'il faut pouvoir se poser. Nous, dans nos paroles, dans nos actes, dans notre vie, y a-t-il des parts de notre vie dont nous n'aimerions pas qu'elles soient rendues publiques, dont nous craignons qu'elles puissent être ainsi exposées ? La bonne conscience. La bonne conscience ne craint aucune dénonciation. Ce gérant a donc été dénoncé, c'est-à-dire que des défauts, des méfaits de gestion étaient révélés à son patron. Il ne cherche donc pas à les contester, d'autant plus que le maître ne cherche pas à l'entendre. Et il y a cette attitude étonnante de sang-froid, de pragmatisme ou de résignation. Il ne va pas, comme dans la parabole dite du débiteur impitoyable, chercher à attendrir, à obtenir l'indulgence de son maître. Peut-être qu'il sait que son maître est un mauvais maître qui ne jure que par l'argent. Et on ne combat pas frontalement les forces de l'argent. Peut-être qu'il sait aussi cette composante essentielle du pardon qui s'appelle la réparation. Pour que le maître lui pardonne, il faudrait aussi qu'il rembourse. Et il ne peut pas parce qu'il n'a rien mis de côté. C'est pour ça qu'il va faire cette démarche. Il ne s'est pas enrichi aux dépens de son maître. Il a probablement laissé couler, effectivement, dilapidé. Si on, de façon assez familière, il a été plus bête que méchant. Il n'a pas été voleur, il ne s'est pas enrichi. Il était incompétent. C'est moins grave ? Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr du tout. Souvenez-vous, dans la parabole des talents, de la colère du maître face au serviteur qui n'a rien fait fructifier. Mauvais, serviteur mauvais et paresseux. Au moins tu l'aurais placé à la banque, j'aurais au moins trouvé des intérêts. L'incompétence peut être une forme de malhonnêteté. Pour chacun de nous, quand on voit qu'on n'y arrive pas, dans son travail, dans sa mission, dans son état de vie, que ça nous échappe. Évidemment, on ne peut pas toujours changer de métier. On dit, ah ben, faites autre chose, on ne peut pas toujours changer. On peut toujours se faire aider. C'est ça son raisonnement. Travailler la terre, j'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire. Je vais demander de l'aide. On ne peut pas toujours changer de métier, de condition, de mission. On peut toujours se faire aider. Et l'homme riche peut alors faire l'éloge de ce géant malhonnête parce qu'il est devenu comme lui un ami de l'argent. Vous savez cette phrase de l'Ancien Testament, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds ?» Si Dieu est Dieu, si l'amour est premier, prioritaire, devenez comme Dieu, soyez saint, dit Dieu, comme moi je suis saint. Mais si l'argent fait votre bonheur, servez-le de tout votre cœur, faites de votre mieux avec toute votre habileté. Entre le voyou qui est ce riche, un voyou qui juge, qui décide sans entendre, et qui ensuite fait l'éloge de la malhonnêteté, entre ce voyou et cet incompétent qui est ce gérant, nous n'avons pas à choisir notre camp. C'est exactement comme dans la parabole du fils prodigue. On n'a pas à choisir entre l'attitude des deux frères. Là, en l'occurrence, ils ont tous les deux choisi le camp de l'argent. Que nous dit cette parabole ? Que nous avons à choisir à qui nous voulons ressembler. Au Christ ou aux riches ? Là, il y en a qui vont dire, je le suis déjà. Alors, au Christ ou au riche cruel? Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur l'attitude à avoir face à des accusations graves, qui plus est face aux calomnies. Il faut simplement se souvenir que Jésus a comparu seul. Au moment de sa passion, il avait renvoyé ses disciples. Et on peut attendre de tout responsable mis gravement en accusation qu'il quitte ses fonctions pour protéger l'institution qu'il représente ou sa communauté. Nous pouvons tous être accusés injustement, sauf par Dieu. C'est ce que dit saint Paul. Ma conscience ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour ça que je suis juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Alors voilà un bon programme. Voilà 5 exercices, 5 questions que je vous propose pour ces jours-ci, pour cette semaine. D'abord, primo, avez-vous déjà été gravement accusé? Injustement ou non, mais gravement accusé. Et comment avez-vous réagi? Qu'avez-vous fait? Et que pensez-vous qu'il faille faire quand on est en fonction, quand on représente une institution? Deuxième question, deuxième exercice. Y a-t-il actuellement des parts de votre vie, des propos ou des actes, dont vous craignez qu'ils puissent être dénoncés, qu'ils puissent être rendus publics? Avez-vous vraiment aujourd'hui bonne conscience? Troisième question, elle a trait au progrès à réaliser. Justement, à l'aide à demander. Est-ce que vous considérez que dans votre état de vie, dans votre travail, dans votre mission, vous considérez comme suffisamment compétent? Ou sinon, quels sont les progrès, les réformes? Qu'est-ce que vous faites pour progresser? Et surtout, à qui demandez-vous de l'aide? À qui demandez-vous de l'aide? Quatrième question, l'Évangile dit « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent ». Voilà cette question. À qui voulez-vous donc ressembler? À Jésus ou à un homme riche, puissant? Enfin, c'est la dernière, mais c'est la plus importante. Si vous n'en gardez qu'une, prenez cette question. Est-ce que l'on vous considère comme une personne digne de confiance? Saint Paul appelle les disciples du Christ des intendants des mystères de Dieu. Tout ce qu'on demande aux intendants, dit-il, c'est d'être trouvés dignes de confiance. Et vous pouvez élargir. Quels sont parmi vos proches, dans votre entourage, les personnes que vous estimez dignes de confiance? Qui est pour vous digne de confiance ?